Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous n'êtes pas certain de savoir ce qu'il faut faire de votre compte LinkedIn ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 557. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn. Bah oui, parce que vous savez, dans ce podcast, je vous aide à développer votre visibilité, à développer votre marque personnelle, à créer du contenu, à avoir des stratégies pour vous montrer, pour créer des super fans. Hein. Mais pour cela, bah, y a différents outils. Et dans tous ces outils-là, il y en a un qui s'appelle LinkedIn et qui est un petit peu l'inconnu du moment. Est-ce que LinkedIn est en train de se Facebookiser? Est-ce que c'est vraiment seulement un réseau pro? Est-ce qu'on peut aussi parler de ses vacances, de sa famille ou pas dessus? Qu'est-ce qu'on doit poster dessus? Est-ce qu'il y a de la visibilité? Est-ce que finalement c'est envahi de gens qui cherchent à nous vendre des choses? Est-ce qu'on est condamné à n'avoir que des gens qui nous assaillent de messages privés pour essayer de nous vendre des assurances ou des je ne sais quoi? Eh ben, ça fait partie des questions que je me suis posées et que je me pose encore. Et ben, pour répondre à ces questions, qu'est-ce que je fais toujours, vous savez? Ben, je pars, je fais des recherches, je fais des expérimentations, j'ai mis à jour mon compte LinkedIn, j'ai cherché plus d'informations, j'ai cherché aussi des spécialistes et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « À la conquête de LinkedIn ». Alors ce livre a été écrit par Christopher Piton et Christopher Piton, qui est un spécialiste de LinkedIn, il a écrit un bouquin dont le principe c'est de nous donner des étapes pour déployer une stratégie marketing et bâtir une réputation forte et pour générer des contacts et des prospects. Alors ça s'adresse vraiment en plus à notre type de profil, hein, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, petits entrepreneurs, etc. Et donc j'ai eu envie tout simplement de l'inviter pour avoir sa vision de comment on s'y prend avec LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment on s'y prend pour bâtir une stratégie? Et puis lui aussi, discuter avec de ces sujets-là, de savoir si finalement ça ressemble un petit peu à Facebook, finalement si les stories sur LinkedIn elles servent à quelque chose, si les stratégies pour avoir des petits hacks, des choses comme ça, servent à quelque chose. Est-ce qu'il y en a encore? Comment fonctionnent les algorithmes? Est-ce que l'algorithme il est un petit peu comme celui de Facebook? Est-ce qu'il est un petit peu différent? Et puis des petits tactiques, des petites techniques qu'on pourrait utiliser. Et je dois vous le dire, en fait, hein, Christopher Piton, il n'est pas dans le hack. Vraiment dans son livre, il n'est pas dans le hack, on est vraiment sur les grandes stratégies et vraiment des stratégies que je partage, hein, vraiment de savoir à qui on parle, de comment on crée son image, qu'est-ce qu'on veut transmettre, quel est le ton que l'on va trouver, et il partage dans des outils qui sont vraiment très intéressants, et on a discuté de tout cela pendant bon, un peu plus d'une heure, donc vous allez voir, c'est un épisode très complet sur ce réseau social pro, dont on ne sait pas trop comment il évolue, mais qui finalement est un territoire qui est à explorer et qui a sûrement un potentiel encore inexploité par beaucoup d'entre nous, en tout cas moi le premier. C'est pour ça d'ailleurs hein, que je vous mets tous les liens dans les notes d'épisode, à la fois vers le profil de Christopher, à la fois vers son livre, mais aussi vers mon profil à moi, sur lequel je partage des compléments des fois au podcast, par lequel je vais partager aussi l'actualité. Et vraiment, je le dis, hein, c'est un réseau que j'ai sous-estimé, vraiment sous-estimé, mais en lisant ce livre, en regardant un petit peu ce qui se fait, en faisant quelques tests, en regardant un petit peu comment utiliser les différents outils, bah, je me dis que peut-être il y a un truc à faire. Et donc, le premier pas, notamment, bah, c'est de poser ces questions à Christopher. Et donc, je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Christopher, non sans vous avoir rappelé avant que vous pouvez bien sûr laisser une petite note sur Apple Podcast si vous aimez ce podcast et que vous pouvez soutenir le podcast sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans les notes d'épisode. Ça vous donne en petit bonus mon épisode du lundi, qui est un épisode privé dans lequel je vous donne plus de détails sur mes stratégies actuelles, sur quoi je travaille, sur ma pensée, sur mes visions, sur les livres que je suis en train de lire. Ça vous permet aussi d'avoir plus de rendez-vous réguliers puisque il y a un épisode le lundi matin qui est en privé, qui est réservé à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon et je les remercie beaucoup pour leur soutien. Allez, maintenant, c'est parti pour cette discussion avec Christopher. Bonjour Christopher.
Salut Bertrand et merci pour ton invitation.
Comment vas-tu?
Eh ben, ma foi, super bien. J'ai hâte d'échanger avec toi sur le sujet de LinkedIn.
Oui, alors LinkedIn, le grand mystère LinkedIn, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis un grand mystère? Parce que j'ai vu des posts, mais assassins, sur LinkedIn ces derniers jours. Et notamment des gens qui sont assez connus dans la tech, ils disent LinkedIn c'est perdu, Microsoft en fait rien, ils savent pas où ils vont, ils se prennent pour Facebook, les gens font du perso dessus alors que ça c'est du pro. Bon, toi forcément tu adores LinkedIn, tu as écrit un bouquin sur le sujet, mais qu'est-ce que tu penses de LinkedIn actuel? Comment tu le décris vraiment comme réseau? Est-ce que c'est encore un réseau pro ou est-ce que c'est autre chose?
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que LinkedIn est en train de se Facebookiser et du coup que il y a de plus en plus de posts plutôt personnels qui déferlent sur la plateforme. Après, j'ai envie de te dire que d'un côté, c'est une sorte de bonne évolution parce que c'est plus l'ancienne génération. Quand j'ai ancienne génération, c'est-à-dire les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont connu le LinkedIn d'avant et qui se sont familiarisées avec la plateforme. Avec surtout des contenus qui sont un peu plus corporate, avec un ton un peu plus lisse. Alors qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles générations. Enfin, après, ce n'est pas pour stigmatiser les générations, mais c'est plus pour faire un plan d'ensemble. Il y a les nouvelles générations qui ont entre 20 et 30 ans qui débarquent sur LinkedIn et justement qui se sont appropriés, eux, des codes d'autres plateformes comme Instagram, Facebook, voire même maintenant TikTok. Et qui vont essayer d'implémenter les codes des autres plateformes sur LinkedIn. Alors forcément, ça va déplaire parce que pour certains, les types de contenus ne sont pas représentatifs d'un contenu professionnel. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que il y a une différence entre raconter sa vie sur LinkedIn et publier des posts de photos de petits chatons et raconter une histoire au service de son business. Bien entendu, tout le monde n'a pas ces compétences-là et la limite peut être fragile entre le perso et le pro. Mais bien entendu, ouais, il faut prendre du recul sur ça et surtout s'il y a des contenus qui ne nous plaisent pas, il nous suffit de retirer la personne de nos relations ou de ne plus suivre les contenus qu'il publie. Pour avoir un fil d'actualité qui est beaucoup plus propre.
Oui, alors après, moi j'ai envie de te dire, il y a quand même un code qui est un peu pénible, c'est cette mode du copywriting à la sauce LinkedIn, où on a l'impression que tous les posts se rassemblent avec les petites phrases de départ, avec les grandes aventures, on a l'impression que des gamins de 22 ans, ils ont découvert un truc, une aventure incroyable, etc. Et puis des posts qui sont très longs pour pas grand-chose des fois, qui vient... Ouais. Mais en fait, alors c'est pas... Je vais être honnête, parce que tout à l'heure j'étais sur Facebook, et j'ai vu exactement le même genre de post. En fait, j'ai l'impression que la maladie du copywriting à outrance en train de toucher tout le monde et que le côté personnel, enfin, on a l'impression que c'est des robots, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que comme tu as beaucoup, beaucoup d'infopreneurs et de copywriters qui vont créer du contenu, parce qu'il faut savoir que sur LinkedIn et d'autres plateformes, tu as la fameuse règle des 1%. C'est-à-dire 80% des gens vont plutôt consommer du contenu et pas interagir, 9% vont interagir et 1% vont créer du contenu. Et majoritairement, les personnes qui vont créer du contenu sont issues soit de la rédaction web, soit issues du copywriting. Pourquoi? Parce que ils savent, entre guillemets, écrire et ils se disent que voilà, s'ils écrivent, c'est pas pour rien, c'est pour générer du business. Alors forcément, toutes les autres personnes qui veulent créer du contenu sur LinkedIn se disent comment écrire du bon contenu? Et forcément, ils vont... regarder ce que font ceux qui créent du contenu et les contenus qui fonctionnent et performent. Et majoritairement, ça va être des personnes qui sont assez calées dans l'écriture. Donc forcément, ils partagent leurs méthodes et de plus en plus, tu vois les mêmes styles de structure, les mêmes styles de contenu sur la plateforme. Mais après, on peut très bien s'approprier ces codes-là, les modifier, les adapter, et créer du contenu qui sont beaucoup plus profonds et avec une patte qui est propre à nous. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir réellement quelle est notre propre patte. Il faut vraiment pratiquer pour réussir à produire du contenu qui nous ressemble et qui surtout intéresse l'audience qu'on cible.
Alors, on va le dire, au niveau de la patte, si les gens vont voir ton compte, ils verront une caractéristique assez nette, notamment, c'est tes carousels qui font je ne sais pas combien de... Alors, le dernier, il en a 20, là, je suis en train de regarder. Alors, On va le décrire en grosso modo, hein. C'est une série d'images avec ta tête, on va dire, avec des petites phrases et des mots, etc. Je mettrai un lien quand même pour partager, pour que les gens se rendent compte. Ça, c'est vraiment par contre... alors les carousels, on en voit quelques-uns, mais la patte de tes carousels est vraiment spécifique.
Ouais. Alors après, ça dépend ce que tu entends par spécifique. Mais typiquement, ouais, ce que j'ai fait, c'est que, pareil, tu vois, j'ai regardé un petit peu, j'ai vraiment observé ce qui se passe sur Instagram. Donc majoritairement, les codes du carrousel viennent d'Instagram. Et sur LinkedIn, les premiers qui se sont appropriés les carrousels sur LinkedIn, c'est notamment Gary Vaynerchuk, donc l'entrepreneur américain. Et de plus en plus, on a vu d'autres créateurs de contenu s'approprier ces codes-là et puis produire des carrousels plus professionnels sur LinkedIn. Après, on a vu d'autres personnes publier des carrousels qui étaient, on va dire, vraiment, vraiment mauvais, où il y avait juste trois mots sur une slide pour partager un conseil qui n'est pas forcément utile. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment me démarquer de la masse et créer de longs carrousels. Bien entendu, ce que je voulais faire, c'est que dans un long carrousel, c'est creuser un sujet et pas juste mettre, tu vois, trois mots sur un slide, mais garder l'attention du lecteur d'un point A à un point B pour qu'il puisse ressortir de sa lecture avec quelque chose de concret et d'applicable, ou en tout cas une réflexion. Le tout avec mon propre ton, c'est-à-dire moi j'ai un ton qui est un peu plus humoristique et du coup forcément... Je distille ces notes d'humour-là dans le carrousel, ce qui permet de garder l'attention des lecteurs tout en faisant passer un message.
Les gens vont se poser la question quand même, techniquement, c'est quoi? C'est un PDF, c'est une série d'images? Parce que les gens, là, ils vont se dire, comment je le fais, ce truc?
Ouais. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne suis pas graphiste. Je ne suis pas développeur non plus, et je me suis dit comment m'approprier du coup les caractéristiques du carrousel. Alors moi j'utilise Canva, qui est un outil en ligne gratuit qui permet justement de créer différents visuels. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une sorte de thème, de process, de slide sur cet outil-là. Et une fois que c'est terminé, je télécharge l'ensemble de ces slide qui ressemble un peu à un PowerPoint en PDF, et après je l'upload sur LinkedIn et automatiquement LinkedIn le transforme en carrousel.
Ouais, donc c'est un PDF hein, que tu importes. Ouais, voilà, donc ceux qui ont besoin d'avoir la réponse, etc. Enfin, ça leur rappelait qu'à une époque, LinkedIn avait SlideShare dans sa besace, qui n'ont plus, hein, le partage de SlideShare sur LinkedIn. C'est la vieille époque, c'est le des vieux, comme moi.
J'ai connu aussi, t'inquiète pas, je te rassure.
Mais en fait, je le dis, mais c'est que moi, ça m'a rapporté des contrats, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à une époque, je mettais des documents que je créais, je les mettais sur SlideShare. Je partageais ça sur LinkedIn d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a des gens qui voyaient ça et qui me disaient, tiens, l'idée m'intéresse. Est-ce que vous voulez pas venir en parler, etc. J'ai fait des missions pour des banques comme ça, qui sont venues me dire, ce que vous avez mis, etc., c'est super intéressant. Donc, c'est vrai que... Et toi, je doute pas que tu arrives à le faire aussi, c'est qu'on génère, on peut générer vraiment une vraie visibilité avec des vrais clients, quoi.
C'est ça, exactement. Tu vois, au moment où j'étais en train d'écrire mon premier livre, c'est là où j'ai réfléchi à l'utilisation du carrousel pour avoir un maximum d'impact en ne publiant plus qu'un seul contenu par semaine. Parce qu'avant, j'avais une fréquence de 3 publications par semaine. Et le fait d'avoir testé ce format-là, je me suis rendu compte que ça crée un maximum de visibilité et surtout ça convertissait beaucoup mieux que des posts classiques que j'avais eu l'habitude de faire. Avec un carrousel, je réussissais à avoir en moyenne entre 40 et 100 personnes inscrites à ma liste email, contrairement à des posts plus classiques qui étaient plutôt textuels où là je convertissais plutôt entre 20 et 30 personnes à ma liste email. Pourquoi ? Parce que le contenu était beaucoup plus long et forcément tu... étant donné que j'apportais des conseils qui étaient beaucoup plus pertinents que dans un post de 1300 caractères, les gens étaient beaucoup plus friands pour en savoir plus et ça convertissait mieux.
Alors là, les gens, bien sûr, vont se dire « Ah mais attends, je peux remplir ma liste email grâce à LinkedIn ?» Et vont se dire « Mais je peux mettre un lien, je peux pas collecter de mails sur LinkedIn ?» Donc l'idée, on va le rappeler quand même, hein, c'est qu'on est dans les principes inbound purs et durs, c'est que finalement, tu renvoies et puis... On le verra de façon sur tes slides, hein, ceux qui verront. Tu renvoies toujours vers le livre ou vers quelque chose qui est sur ton site.
Ouais, c'est ça exactement. Moi, ma stratégie, c'est que sur une publication, donc au moins une publication par semaine, j'ai un appel à l'action qui renvoie soit vers mon livre, soit vers une liste email, de manière à aussi atteindre mes objectifs. Parce que après tout, je suis pas sur LinkedIn pour produire du contenu, juste pour produire du contenu, et je suis pas là-dessus pour la gloire. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une stratégie et puis d'atteindre les objectifs. Donc, ouais, effectivement, je mets toujours en place un appel à l'action.
Voilà. Alors, il faut le rappeler quand même, c'est que LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, il n'aime pas trop les liens qui sortent.
C'est ça. Ouais. Généralement, il n'aime pas les liens externes. Alors, c'est pour ça que tu vas voir majoritairement des gens qui vont te dire le lien est dans les commentaires, en premier commentaire. Mais c'est là où j'émettrais quand même un bémol. Certes, c'est intéressant de mettre le lien en commentaire parce que LinkedIn ne va pas pénaliser ta publication. Mais si tu as de plus en plus de commentaires, le risque est que, comme tu ne peux pas épingler un commentaire, que finalement ton lien soit noyé parmi la masse de commentaires et puis que les gens ne prennent pas la peine d'aller cliquer sur le lien parce que ça crée une frustration et une friction supplémentaire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique le concept de Ryan Fishkin, qui est que tu vas publier deux contenus qui vont être sans lien, éventuellement avec le lien en commentaire, parce que ça ne mange pas de pain, surtout quand tu as une petite visibilité, forcément tu as peu de commentaires, donc les gens verront ton commentaire avec le lien, et avoir ta troisième publication avec un lien directement dans le poste. Certes, tu auras une petite pénalité parce que tu invites les gens à quitter la plateforme qu'est LinkedIn et l'algo n'aime pas ça. Mais étant donné que tu as montré patte blanche dans tes deux précédentes publications, tu vas quand même profiter de cette traction de visibilité et ta troisième publication sera pénalisée, mais quand même un petit peu moins parce qu'elle aura bénéficié de cette traction-là.
C'est intéressant hein, parce que il y a plein de gens qui disent stratégie. J'avais lu quelqu'un qui disait si on met le, si on publie le lien, si on publie le message sans lien qu'on va remodifier derrière et qu'on met le lien dedans, ça marche quand même.
Ouais, c'est ça, effectivement. Aujourd'hui, ça marche encore, mais on ne sait pas quand est-ce que ça ne marchera plus. Si demain, ça ne fonctionne plus, les gens vont être perdus, vont dire, maintenant, je fais comment? Voilà, c'est pour ça que, en fait, moi, je préférais utiliser une méthodologie, en tout cas que je recommande à mes clients et puis à mes lecteurs, qui est de viser long terme et d'utiliser des méthodologies qui vont perdurer sur le temps, même s'il y a des mises à jour algorithmiques. Donc, le fait d'utiliser la méthode de Ryan Fishkin, ça permet quand même d'assurer sur le long terme.
Alors, il faut le dire, parce que dans le livre, moi j'ai lu le livre, en fait j'ai lu le livre avant de te contacter, comme ça je voulais vraiment savoir ce qu'il y a dans le livre, parce que franchement, soyons honnêtes, la plupart des livres sur LinkedIn que j'avais lu jusqu'à maintenant, c'était quand même du grand débutant, avec beaucoup d'informations sur lesquelles on a un petit peu de mal à dire bon, qu'est-ce que j'en fais ou quoi que ce soit, ou un peu de généraliste, et puis beaucoup de petits hacks, parce que les gens sont à la recherche du hack, ils veulent pas des trucs
C'est ça.
de stratégie, et toi t'es plutôt quand même dans une approche vraiment avec une vraie stratégie.
Ouais, exactement. Tu vois, tout comme toi, moi aussi, j'ai lu et j'ai acheté tous les bouquins sur le sujet, donc en français et puis en anglais, pour voir qu'est-ce qui se faisait sur le marché. Et majoritairement, les bouquins étaient plutôt orientés tutoriel, paramétrage du compte et comment finalement se servir de LinkedIn, mais en survolant un petit peu les concepts. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aller beaucoup plus loin et vraiment de partager une méthode que moi, j'applique dans mes coachings. Et dans mes accompagnements. Donc l'idée c'est de se dire voilà vous prenez le livre et le but c'est pas j'arrive sur LinkedIn je publie du contenu ou j'arrive sur LinkedIn je prospecte et ça va marcher. L'idée c'est de se dire avant d'aller sur LinkedIn se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à y aller? Est-ce que mon positionnement est suffisamment clair? Est-ce que j'ai bien défini mon avatar? En gros est-ce que mon positionnement est clair pour que je puisse après publier du contenu, en tout cas avoir une communication sur la plateforme qui est beaucoup plus pertinente et pour avoir beaucoup plus d'impact. Parce que finalement, si tu publies du contenu où tu optimises ton profil sans savoir à qui tu t'adresses, ça ne sera pas pertinent.
Alors, moi j'ai, tu vois, quand je regardais les choses, il y a quand même une question que tu poses et je me rappelle plus de la réponse, donc je vais te la reposer.
Ça marche.
Suffit-il, est-ce qu'il suffirait de hacker l'algorithme, parce que tout le monde recherche ça, donc on va évacuer la question. Est-ce que l'algorithme de Insta, de, je veux dire d'Instagram, mais non, mais de LinkedIn est hackable, parce qu'on dit qu'il est réputé comme étant un peu plus, j'ai envie de dire, basique que la grosse armada de chez Facebook. Alors, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que pour l'instant, il reste encore hackable facilement ou finalement, ça reste un mythe et puis c'est pas si simple que ça?
Non, non, ça reste encore hackable. Disons qu'il y a des astuces et des hacks qui permettent de contourner l'algorithme, ou en tout cas qui permettent de profiter, on va dire, de ses faiblesses. Typiquement, comment fonctionne l'algorithme de manière simple, c'est-à-dire que lorsque tu publies un contenu, ton contenu est montré à un pourcentage de tes relations. Et lorsque ces relations-là interagissent sur ton contenu, bah, LinkedIn va calculer bah, le taux d'engagement et le temps passé sur la publication et établir une sorte de score. Si ce score est mauvais, bon bah finalement ta publication ne sera pas montrée à davantage de personnes. Si ton score est bon, bah c'est reparti pour un tour, il va remontrer ta publication à plus de relations et ainsi de suite et ainsi de suite. À partir de là, une fois que tu as compris le concept, tu te dis, OK, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'interactions pour être beaucoup plus visible. Sachant que LinkedIn fonctionne comme n'importe quel réseau social avec un système de gamification où plus tu gagnes de points, donc par exemple un like c'est un point, un commentaire c'est 2 points, un partage c'est 3 points, quand tu as compris plus ou moins ce système-là, tu te dis, bah, dans ce cas-là, j'ai plus qu'à avoir un maximum de points pour être un maximum visible. D'où le fait qu'on a vu émerger pas mal d'outils pour générer des likes, des commentaires automatiques pour doper, on va dire, la visibilité. Sauf que ça, LinkedIn l'a compris et a mis en place une mise à jour algorithmique pour calculer le temps passé sur la publication. Parce que ces outils-là, finalement, likaient de manière automatique, mais il n'y avait pas de temps passé sur la publication, c'était totalement factice. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pris en compte. Donc ça veut dire que ces outils-là vont plus être suffisants pour, on va dire, contourner l'algo. Ce qui va fonctionner aujourd'hui, ça va être par exemple des techniques qu'on voit passer, mais qui peuvent se lasser sur le temps, parce qu'on a de plus en plus qui l'utilisent. C'est partager une ressource, donc ça peut être un livre blanc, ça peut être une formation en ligne, enfin bref, ce qu'on veut, contre un commentaire. Donc en gros, l'idée, c'est-à-dire que tu publies un contenu et tu dis aux gens, voilà, j'ai une méga ressource à vous partager, tu expliques les bénéfices dans des bullet points, etc. Et à la fin, tu leur dis, bah, si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire et puis je vous enverrai ça par message privé. Donc ça, c'est des techniques de growth hacking qui sont utilisées pour justement, d'une part, bah, créer de l'attention, de l'envie, et forcément, c'est doublement gagnant parce que tu reçois davantage de personnes qui sont intéressées, donc tu as des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu proposes, par tes services, donc ça te donne du leads. Et de l'autre côté, bah, plus tu as de commentaires, plus l'algorithme te met en avant parce que tu as gagné un maximum de points, et étant donné que l'algorithme ne fait pas la différence entre un bon et un mauvais commentaire, ou un commentaire intéressé et un commentaire constructif, pour lui, un commentaire, c'est un commentaire. Donc, effectivement, si tu as beaucoup de « je suis intéressé » et tu en as 400 de commentaires identiques « je suis intéressé » sous la publication, bah, tu vas être davantage mis en avant.
Oui, alors tu dis ça, mais d'un autre côté, il y a quand même eu un petit peu de bruit il y a quelques jours. Alors là, on enregistre le 5 mars, donc c'était il y a quoi, une semaine ou 10 jours, avec l'histoire des doubles appuis sur une photo pour faire un j'aime, en disant ouais, ça y est, ils font comme Instagram. Et puis il y en a certains qui ont fait des trucs, bah, qui ont hacké un peu le truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis une image en disant bah, appuyez deux fois dessus ou je sais pas quoi. Ça, c'est quand même, il y a aucun temps passé sur la publication, quoi.
Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn va prendre en compte différents paramètres, donc ceux que je t'avais expliqué juste en amont, le temps passé et puis le taux d'engagement. Donc forcément, si tu as la personne qui s'arrête et qui double tape sur la publication, ça va te générer un like. Et forcément, un like, ça vaut un point. Mais si tu en as 1000, bah 1000, ça fait toujours 1000 points. Comparé à une publication qui finalement aurait eu 50 commentaires, tu n'aurais pas eu le même score, tu aurais eu 100 points au lieu de 1000. Donc le fait que d'avoir utilisé ce système pour contourner l'algo, bah, ça permet de gagner en visibilité. Mais après, est-ce que c'est intéressant de publier ce genre de contenu-là pour ta crédibilité, pour mettre en avant ton expertise et pour faire du client? Pas du tout. Par contre, il y a des moyens qui peuvent être intéressants avec le double tap. Ça pourrait être, par exemple, pour des personnes qui sont vraiment orientées un petit peu dev perso, ou qui veulent partager un message fort. Et à la fin, tu peux leur dire double tap si tu es d'accord. Ce qui fait que en amont de ton poste, ou même dans l'image, tu n'indiques pas de faire double tap, mais tu partages juste une image ou une infographie. Et à la fin, tu leur dis de double tap dessus si vous avez apprécié. Ça permet de maximiser le nombre de likes sans pour autant, tu vois, tout en apportant une valeur dans ton contenu.
Il y a une fonctionnalité de LinkedIn qui semble morte, c'est les articles. Là, je suis sur ton compte hein, tout de suite, tu vois, je suis en train de regarder. Je vois que tu as un article qui date de 2018, mais on en parlera parce que c'est intéressant aussi comment tu t'es lancé sur ton défi d'en faire de faire du contenu tous les jours à une époque. Mais enfin, franchement, les articles, ça n'existe plus sur LinkedIn.
Alors ça existe encore, mais c'est vrai que LinkedIn favorise davantage les posts que les articles. Avant que ils mettent en avant la fonctionnalité des posts, c'était les articles qui étaient mis en avant et forcément, lorsque tu publiais un article, tu avais énormément d'interactions. Aujourd'hui, c'est plus autant le cas. Les articles vont être intéressants. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas éphémères, contrairement à des publications classiques. Et tu vas avoir la possibilité de référencer tes articles sur Google. Pourquoi? Parce que l'article de LinkedIn n'est pas réservé à la plateforme, elle est publiée elle est directement visible sur Google, pardon. Donc tu vas avoir ces avantages-là. Et un article, ça te permet de creuser un sujet en profondeur, contrairement à un post qui va être plus là pour apporter quelque chose de beaucoup plus croustillant et d'être dans le contenu vraiment snackable.
Oui, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était le fameux Pulse hein, qui de chez LinkedIn hein, qui mettait en avant, qu'on a l'impression que. Alors, je vois encore des gens qui les utilisent, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, la plateforme, moi, je sais pas. Enfin, après, je suis peut-être un vieux con de l'ergonomie, mais je trouve que quand on est sur un profil, on a du mal à récupérer parce qu'il nous amène sur un truc qui est l'activité et où dans ce cas-là, ça mélange les commentaires, les posts, on voit pas trop les articles, etc. Donc, c'est un petit peu noyé dans finalement dans. Dans tout cette interaction immédiate et pas très long terme, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, de plus en plus, LinkedIn a modifié sa manière de proposer les contenus. Et effectivement, il fut un temps, donc il y a quelques mois, quelques années, où sur ton profil, tu avais tout de suite le dernier article qui était mis en avant. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand tu le dis, il faut aller dans l'onglet Activité pour voir les contenus. Mais tu as aussi, à côté de l'onglet Activité, trois autres petits onglets qui sont articles, posts et documents. Ou seulement ça te permet de tout de suite filtrer par catégorie de contenu pour avoir l'information dont tu souhaites. Mais en termes d'ergonomie, c'est sûr que LinkedIn a encore du travail à faire. Ouais.
Alors, je continue à regarder. Il y a un truc si sur lequel il y a une question qui va se poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une entreprise, une petite entreprise, une petite activité, qui vont se poser la question de savoir s'il faut créer une page pour leur activité, pour leur entreprise ou même pour leur podcast, hein, comme moi. Alors je vais écouter ta réponse. Moi, je vais dire ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et parce que je pense qu'on peut en discuter. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est est-ce qu'il faut créer une page pour son entreprise, qu'on soit petite ou grande, et est-ce qu'il faut mettre des choses dessus?
Ouais, intéressant. Alors moi, je vais te donner ma réponse en deux parties. La première partie va concerner surtout, par exemple, les freelances et les indépendants sur la question de créer une page d'entreprise. Alors moi, j'ai créé une page d'entreprise alors que je suis indépendant et que je suis tout seul. On pourrait dire, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Le fait de créer cette page d'entreprise-là, moi, je ne le fais pas pour y publier du contenu, mais juste pour bénéficier du petit logo sur le profil LinkedIn. C'est-à-dire sous la bannière, on voit directement quelle est ta dernière activité avec le logo. Soit bah, tu as un petit avatar si t'as pas de logo par rapport à ton activité, si tu n'as pas créé l'entreprise, soit tu as créé une entreprise et du coup tu peux la lier avec ton profil. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le logo et le nom de ta boîte. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et les personnes, lorsqu'elles vont sur cette page d'entreprise-là, bah, je leur indique que bah, tous les contenus sont sur mon profil. Et puis c'est tout, et puis je renvoie un lien après vers mon livre. Après, pour les plus gros, on va dire pour les PME, là ça va être plus intéressant d'avoir une page d'entreprise pour avoir une stratégie de marque employeur, avoir une stratégie de marque sur lequel tu vas avoir une stratégie de contenu qui va être bien différenciée des contenus sur les profils des collaborateurs. Là, se pose encore la question, OK, mais on m'a dit que si on publie du contenu sur une page d'entreprise, ça a moins de visibilité. C'est vrai parce que la politique et le modèle économique de LinkedIn par rapport aux pages, c'est tu veux être visible, tu payes. Ce qui n'est pas le cas pour les profils. Donc l'idée, c'est au lieu de uniquement repartager les contenus d'une page d'entreprise, ça va être de publier des contenus un peu plus personnels ou en tout cas en apportant son conseil, sa vision personnelle d'un sujet qui peut être publié sur une page d'entreprise et nommer la page d'entreprise sans pour autant repartager la publication. Donc, devant là concrètement mon avis sur le sujet. Alors maintenant, je suis intéressé d'avoir le tien.
Mais en fait, voilà ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais créé une page d'entreprise pour mon activité, votre coach web, et je l'avais mis à jour un petit peu à la va-vite, hein, tu vois, soyons honnêtes, j'avais mis deux, trois trucs, les missions que je pouvais mettre. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai créé une page d'entreprise pour chacun de mes podcasts. Parce que comme j'en ai plusieurs, et justement, parce que on va dire qu'il y a un design de profil à essayer d'avoir, et quand on veut dire qu'on est podcasteur et qu'on veut accompagner des gens dans le podcast, bah, il faut trouver un moyen sur la plateforme de montrer, hein, qu'on a des podcasts et qu'est-ce qu'ils font. Et notamment par rapport à mon podcast de course à pied, Kilomètre 42, bah, j'étais un petit peu embêté parce que pour le mettre en avant, c'était un petit peu compliqué. Donc, je lui ai créé une entreprise, Kilomètre 42, podcast. Alors, j'ai mis en indépendant et puis je me suis mis CEO du truc. Je sais pas comment je me suis mis d'ailleurs. Ça me permet en plus de mettre un lien directement vers le site, dans mon profil, comme ça. Et puis, j'ai mis aussi, en même temps, j'ai continué un petit peu à remplir votre coach web, etc. Et donc, ce qui fait que ça arrive à les faire monter comme des activités. Et quand on regarde le profil, en fait, tout d'un coup, moi, ce qui, c'est vraiment les logos, on voit vraiment les logos des podcasts qui apparaissent, en fait.
Ouais, exactement. Bah, ça, c'est une bonne stratégie parce que ça permet de, on va dire, contourner les limites ergonomiques de LinkedIn et qui propose sur le profil. Soit bah, tu partages tes dernières expériences, donc bah, forcément avec les logos des entreprises pour lesquelles tu as bossé, soit tu partages bah, tous les logos des marques ou des projets que tu as créés dans la rubrique expérience qui te permet effectivement bah, d'ancrer bah, tes univers. De parler de tes projets et sur ces pages-là, de pouvoir aussi proposer des liens ou des médias qui renvoient vers tes projets.
Il y a un élément qui est pour moi primordial et j'ai dit à beaucoup de mes clients que j'avais en accompagnement à une époque, sur LinkedIn, il y a quand même l'aspect recommandation. Je trouve, hein, que en tout cas les gens n'osent pas assez les mettre les utiliser, demander des recommandations, etc. Alors que pourtant, j'ai le sentiment que c'est l'outil qui est peut-être le plus intéressant.
Ouais, exactement. C'est intéressant parce que quand tu te dis quel est le premier réflexe lorsque tu hésites entre deux produits qui sont strictement similaires, bah, ton premier réflexe, c'est aller consulter les avis, les recommandations. C'est pareil sur LinkedIn. À profil égal, si ton concurrent direct a plus de recommandations que toi, sa probabilité en tout cas de signer avec un prospect est plus élevée, si vraiment tout est strictement similaire, j'entends. Cependant, tu vas avoir des personnes qui vont avoir recours à des mauvaises pratiques, c'est-à-dire les recommandations réciproques. Je te fais une recommandation, tu m'en fais une, et puis on est gagnant-gagnant. Le seul hic, c'est que sur LinkedIn, tu sais qui t'a fait une recommandation et tu sais à qui tu as donné une recommandation. Donc, si tu as cinq recommandations reçues et cinq recommandations données qui sont bah, les mêmes, finalement, bah, au lieu de gagner en crédibilité, bah, ces recommandations-là vont plutôt te faire perdre en crédibilité. L'idée, c'est plutôt de mieux vaut avoir une seule recommandation qui est bien écrite que d'avoir 10 recommandations banales du style génial professionnel, je recommande, un peu comme ce que vous pouvez voir à l'époque sur eBay, super produit, je recommande. Généralement, après, tu te dis, ok, bah, c'est bien, Christo, t'as raison, c'est cool d'avoir recommandation, mais tu fais comment? Moi, généralement, je propose toujours une trame à mes clients qui est, voilà, en gros, si tu sais pas comment écrire une recommandation, bah, tu peux m'expliquer bah, quelle était la situation initiale avant de me contacter, bah, quel était ton problème, et la situation finale, comment, à travers mon expérience, à travers mon accompagnement, j'ai réussi à bah, régler tes problèmes et quels étaient les résultats. Et du coup, bah, voilà, ce que je leur recommande, c'est de suivre cette trame-là, et majoritairement, bah, ils la suivent, et ça permet d'avoir une recommandation qui est bien structurée et qui peut après rassurer les personnes qui vont visiter mon profil avant de faire appel à moi.
Oui, alors ça c'est en plus c'est une recommandation que je donne en général, Moi, par exemple, sur mes formations, j'ai un petit lien qui donne carrément où je donne 7 questions à répondre pour faire la reco. Non, mais pour une raison, et c'est là où après, c'est une question aussi de copywriting, hein, si on veut dire, c'est que, en fait, après, quand tu enlèves les questions et que tu n'as que les réponses, les questions, elles sont plutôt orientées sur tous les points à lever, les objections, en fait. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a freiné, quel était votre problème, qu'est-ce qui vous freinait avant d'acheter, qu'est-ce que ça a résolu, un petit peu ce que tu viens de dire. Et donc, moi, par exemple, j'ai recueilli par un blog, mais le fait d'avoir ça, en fait, ça me permet de dire, sur une FAQ, c'est facile, je peux mettre le témoignage plutôt que de dire, oui, cette formation répond à ça, je peux mettre le témoignage. Et c'est vrai que cette méthode que tu as expliquée pour faire ça aussi, finalement, permet de répondre aux objections que les gens ne vont pas forcément dire, mais ils ont dans leur tête, au moment où ils doivent choisir quelqu'un. Et là, tout d'un coup, ils voient, ah bah tiens, ça répond à ma question que je me posais dans ma tête. Finalement, ça me rassure, quoi. Ça me rassure vraiment, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est toujours ce système-là parce que les gens ne vont pas prendre le réflexe de te laisser des recommandations en fait. Ils vont te le dire oralement qu'ils ont bien apprécié ton travail et puis globalement ils sont satisfaits. Mais si tu veux obtenir des recommandations, bah, il faut être proactif et leur demander. Après, il suffit pas de leur demander parce que tu peux leur dire, bah, ce serait cool que tu me fasses une recommandation. Ils vont te dire oui, mais ils vont être bloqués. Ils vont se dire, d'accord, mais qu'est-ce que je vais écrire dedans? Et le fait juste d'avoir cette question-là en tête, de se dire, qu'est-ce que je vais mettre dedans, bah, ça crée une friction et finalement, ils ne le font pas. Donc, le fait de leur proposer une petite trame à suivre sans écrire à leur place, ça leur permet tout de suite bah, d'avoir un cadre et de le faire rapidement et toi, de maximiser tes chances d'avoir des recommandations qualitatives.
Ouais, moi après, je connaissais quelqu'un qui était enseignant et qui avait une super moyen de demander une recommandation. Il demandait les recommandations à ses élèves.
Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah là, tu me mets de recommandations, sinon je te mets 2 sur 20.
Alors, je sais pas s'il le fait encore parce que j'avais regardé l'autre jour. On peut pas enlever des recommandations, on peut pas les enlever, on peut les masquer ou pas?
Tu peux supprimer des recommandations qu'on t'a faites.
Ouais,
Et
donc.
tu peux les supprimer.
Ouais, je pense qu'en fait, il a fait un peu de ménage parce que l'autre jour, j'ai regardé et j'ai dit, bah, elles sont passées où ces recommandations? Alors qu'avant, il y en avait des dizaines et des dizaines, tu sais. Et en fait, c'est un jour, c'est des étudiants qui m'ont mordu, qui m'ont lâché l'affaire et qui m'ont dit, ah, mais vous ne demandez pas de recommandations vous, pour votre cours et tout. Je dis, mais non. Je dis, moi, j'ai pas envie. Je dis, en plus, vous me demandez en contact sur LinkedIn, je suis vraiment pas certain d'accepter la demande. Et c'est d'ailleurs ce qui va venir, la question suivante, c'est que on est quand même harcelé dès qu'on est un peu actif. De gens qui viennent nous demander en relation. Moi, j'ai pris l'option de dire, je mets le bouton suivre en priorité plutôt que le bouton demander en contact, ce qui refroidit certains, mais pas tous, hein. Il y a certains qui s'accrochent, hein, qui savent où trouver le truc. Et surtout que c'est que derrière, ça ouvre une porte à, coucou, j'ai une affaire pour toi, quoi.
Ouais, exactement. Après, c'est encore une fois, ça va dépendre de ton objectif et quelle est ton intention de départ. Moi, généralement, je recommande aux gens de changer le bouton se connecter par suivre sur leur profil dès que ils commencent justement à recevoir trop d'invitations et surtout des invitations en tout genre du style. Bah du spam, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir maximiser leur nombre de relations et d'abonnés sur leur profil, et du coup, ils envoient des invitations massives, donc déjà ça freine, et puis ça va freiner aussi les demandes qui sont ultra intéressées, et généralement ça sert de filtre naturel. Donc, moi, depuis que j'ai changé le bouton, je reçois toujours des demandes de connexion, mais qui sont quand même beaucoup plus qualitatives qu'auparavant. Après, la question à se poser, c'est est-ce que moi, si je démarre sur LinkedIn, je dois automatiquement changer ce bouton-là? Je ne conseillerais pas de le changer pour les personnes qui débarquent sur LinkedIn et qui ont moins, tu vois, de 10-15 000 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est finalement pas maximiser ses chances d'entrer en contact avec des gens. Parce que certes, on peut toujours te contacter sur LinkedIn, même si tu as changé le bouton suivre, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'il faut aller cliquer sur les 3 petits points et ensuite, dans la liste déroulante, tu peux cliquer sur se connecter. Donc, ce qui fait que tu peux potentiellement passer à côté d'opportunités commerciales intéressantes. Voilà, la question à se poser, c'est je change de bouton si je commence à recevoir trop de demandes et grâce à ma stratégie de contenu.
Oui, et c'est vrai qu'après, il y a plein de questions hein, que les gens peuvent se poser, etc. Il y a d'autres questions parce que sur le mobile, on a aussi les stories. Alors, je sais même pas. Alors d'ailleurs, je sais même pas si tu fais des stories finalement, parce que moi, j'ai une utilisation. Enfin, je dis pas que j'ai pas une utilisation mobile, mais l'utilisation des stories dans Instagram, c'est dans LinkedIn, c'est pas mon réflexe, on va dire.
Ouais, j'imagine. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus natif de faire une story sur Instagram parce que ça fait partie des codes de la plateforme. Sur Instagram, tu y vas parce que tu y vas pour le beau, tu y vas pour avoir une dose de motivation, d'inspiration et pour égayer tes pupilles. Et du coup, les seuls, on va dire, outils, fonctionnalités, c'est la photo et la story. Sur LinkedIn, tu as tous les formats, dont les stories. Et moi, je les utilise. Par contre, je ne vais pas les utiliser comme ce que je pourrais faire sur Instagram. C'est-à-dire que moi, les stories sur LinkedIn vont vraiment être complémentaires avec ma stratégie de contenu sur la plateforme. Typiquement, si tu vois, j'ai animé une room sur Clubhouse là ce matin, au lieu de faire une publication LinkedIn pour dire que j'anime une room, tout simplement, j'en ai fait une story pour parler de ce sujet-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment complémentaire et ça me permet aussi de parler des coulisses de mon activité, des coulisses des projets. Et tu vois, typiquement après là, cet échange avec toi, je pourrais très bien faire une story pour dire que j'ai passé un bon moment, qu'on a organisé, qu'on a fait une interview et qu'elle va bientôt sortir, etc. Donc tu vois, ça te permet aussi de faire du teasing sans pourtant faire une publication. Voilà.
Est-ce qu'il y a le swipe up sur les stories LinkedIn ou il n'y est pas encore? La fonctionnalité d'avoir un lien direct en fait?
Alors, la fonctionnalité existe, moi je l'ai, et je peux du coup insérer des liens directement dans mes stories. Elles sont accessibles à partir du moment où tu as 5 000 abonnés et elles sont disponibles sur toutes les pages d'entreprise. Mais LinkedIn a la fâcheuse tendance de dire que les fonctionnalités sont ouvertes à tous, mais j'ai plusieurs contacts qui ont plus de 5 000 abonnés et qui n'ont pas la fonctionnalité swipe up. Et récemment, là donc récemment, c'est d'aujourd'hui, j'ai vu passer une publication, donc c'est à voir sur le long terme, mais comme quoi finalement LinkedIn retirerait la possibilité de faire les liens dans les stories. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça un peu con parce que finalement, c'était une bonne avancée et ça permettait de donner envie aux utilisateurs d'utiliser les stories. Le fait d'enlever justement cette fonctionnalité d'envoyer des liens externes, ça va rebuter les gens et ça va leur donner encore moins envie d'utiliser l'outil, quoi.
Tiens, ça me fait penser que tu parles de nombre d'abonnés, de gens qui nous suivent, etc. Les statistiques dans LinkedIn, elles sont pas extrêmement simples à trouver, à repérer. Si je demande aux gens, je suis sûr que je pose la question aux abonnés, tu vois, comme ça de leur dire, vous savez combien vous êtes de personnes qui vous suivent, combien vous êtes de contacts, ils vont me dire, oh bah j'ai le plus de 500, mais derrière, combien t'en as réellement?
Ouais, c'est ça, ouais. Sur LinkedIn, en fait, pour savoir le nombre d'abonnés, il suffit d'aller sur ton profil et c'est sous la petite rubrique activité. Donc là, tu as le nombre d'abonnés qui s'affiche. Maintenant, il faut faire la distinction entre le nombre d'abonnés et le nombre de relations. Le nombre de relations, c'est-à-dire, c'est des personnes dont tu as accepté l'invitation ou des personnes qui ont accepté ton invitation et qui vont faire partie de ton cercle de niveau 1 sur LinkedIn, parce qu'il y a 3 niveaux, hein, sur la plateforme. Et les personnes qui font partie de ton cercle de relations niveau 1 automatiquement sont abonnées à tes contenus et du coup, ils verront passer tes contenus dans leur fil d'actualité. Donc là, il y a vraiment cette nuance à comprendre sur la plateforme LinkedIn.
Oui, alors après, il y a plein de trucs qui sont rigolos. Moi, je suis un expert absolu aussi, tu sais, ce truc-là.
Ouais.
Je sais pas à quoi ça sert. Enfin, franchement, en plus, le jour où je suis apparu en expert absolu dans je sais plus quel domaine, je me suis dit, là, franchement, c'était un peu simple de le trouver. Et puis un autre, je me suis dit, je pense pas être un expert absolu. Et en fait, d'ailleurs, c'était une bonne question, c'est que je sais même pas d'où m'en a sorti certains.
Ouais. Le badge expert absolu va t'être donné à partir du moment où, en gros, t'as complété ton profil. C'est plus un petit peu comme sur d'autres outils que tu pourrais avoir sur Dropbox ou d'autres plateformes, où en gros, il te donne une sorte de récompense virtuelle qui va te pousser à compléter ton profil pour y mettre un maximum de données pour eux, finalement, les aider à te proposer un maximum de contenu et de profils qui peuvent potentiellement t'intéresser. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Après, le fait d'avoir le badge expert absolu, bah, ça va rien changer en soi.
Ouais, ça fait partie. Non, mais c'est ça. En fait, des fois, il pose des questions. Est-ce que vous êtes là-dedans, etc. Fait des petits questionnaires, etc. Après, je trouve qu'il y a des fonctions. Et c'est là où on se rend pas compte, mais où est-ce que j'ai l'impression que c'est qu'on les utilise pas beaucoup, qu'elles sont moins disponibles. Tu sais, les fonctions où il y a des gens qui vendent des formations sur LinkedIn, où on peut héberger des formations directement sur LinkedIn, etc. J'ai le sentiment, j'ai vu plein de trucs américains les avoir. Moi, quand je regarde, j'ai pas le sentiment d'avoir vu beaucoup de Français avoir des formations, ou alors elles sont pas mises en avant, ou alors je sais pas où les trouver.
Qu'est-ce que tu entends par formation? Tu veux dire le e-learning de
Ouais, vraiment
LinkedIn?
avec des e-learning, avec des modules avec lesquels tu peux même t'abonner. Il y en a que tu peux payer même, j'ai vu, hein, des choses comme ça.
Ouais, c'est ça.
On pourrait dire c'est ça, en plus c'est super logique. Je veux dire, t'es un expert, t'as ton statut d'expert qui est créé dans LinkedIn, etc. Tu peux dire bah voilà, j'ai fait une formation, vous pouvez vous abonner, vous inscrire dessus, etc. Et j'ai l'impression que je trouve pas si facilement que ça en fait. En tout cas, cette fonctionnalité dans LinkedIn.
Non, non, c'est vrai, il faut creuser pour la trouver. Et c'est ça qui est bien dommage. Ouais, LinkedIn, à ce niveau-là, devrait retravailler sur l'ergonomie. Peut-être qu'ils vont proposer dans le futur, mais en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais.
Ouais, c'est la fonctionnalité learning, tu vois, je suis allé la
C'est ça.
chercher. Pour ceux qui la cherchent, hein,
C'est dans les produits, ouais.
ouais, il faut aller dans les produits, là, il y a une espèce de petit truc sur le côté, produits. Il y a plein de trucs qui sont faire la publicité, des choses comme ça. Et puis, il y a ce fameux learning, et dedans, j'invite les gens quand même à aller voir, parce que j'ai trouvé des trucs qui étaient assez intéressants, hein, franchement. Notamment, alors là, il y a des trucs sur le lâcher prise, penser comme un leader, etc. Je l'ai dit, j'ai pas regardé, hein, franchement, mais je vois qu'il y a quand même 160 000 apprenants dessus, sur certaines formations. Alors, je sais pas si les gens sont, c'est payé, s'ils ont payé ou pas, etc. Mais on peut dire quand même qu'il y a un sacré potentiel de démontrer son expertise, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah après, tu as des possibilités de faire payer ou pas, mais pour avoir la possibilité d'être présent sur le e-learning, c'est LinkedIn qui va te contacter pour créer ces formations-là. Tu ne peux pas, toi, de but en blanc, proposer des formations sur la plateforme. C'est vraiment encadré par les équipes LinkedIn.
Ouais. T'as un autre truc aussi qui sur la vidéo aussi ils sont un peu certains ont le live, d'autres non. Ça aussi c'est à la bonne tête quoi.
Bah ça, c'est encore un truc qui, moi aussi, m'agace sur LinkedIn. Tu vois, j'ai beau bosser sur cette plateforme-là, il y a des choses qui m'agacent quand même. C'est, bah, on a une fonctionnalité, mais si tu veux l'obtenir, bah, il faut que tu la demandes. Donc, en gros, si tu veux obtenir le live LinkedIn, faut d'une part avoir déjà publié quelques capsules vidéo sur ton profil pour montrer à LinkedIn bah, que tu utilises le format vidéo. Sinon, pour eux, bah, ils te donneront pas la fonctionnalité. Et après, il faut que tu leur envoies une demande manuelle en remplissant un formulaire pour obtenir cette fonctionnalité-là. Et eux, après décision, ils vont d'octroyer le live LinkedIn ou pas.
Ouais, non, mais c'est que ça, il y a plein de trucs hein, qu'on regarde. Et tiens, parce que c'est intéressant, t'en parles dans le bouquin, les hashtags. Il y a toujours le débat, est-ce que ça sert à quelque chose ou à rien? On va dire sur LinkedIn, il sert à quelque chose.
Alors sur LinkedIn, ils servent à quelque chose, mais encore une fois, ils sont quand même moins usités que sur Instagram. Sur Instagram, l'utilisation du hashtag est vraiment pertinent. Si demain tu veux aller publier, enfin tu veux trouver un bon endroit pour faire de belles photos, tu vas taper le hashtag d'une ville et tu vas trouver des bons spots. Sur LinkedIn, si tu veux trouver des publications, par exemple en lien avec, je sais pas moi, tiens, le copywriting, pour en parler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas pouvoir retrouver le hashtag copywriting et tous les publications qui ont utilisé cet hashtag-là. Majoritairement, on retrouve plus quand même de hashtags anglais que français, et les gens pensent qu'en utilisant les hashtags, ça va leur donner un gros élan de visibilité. Je pense que c'est tout comme sur Instagram, ce n'est pas nécessairement le cas. À mon sens, c'est intéressant de les utiliser parce que ça ne mange pas de pain, mais ce n'est pas ça qui fera que la visibilité de ton poste va exploser. Pour l'utilisation des hashtags, moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'en utilise trois. Un hashtag qui va être vraiment populaire, donc typiquement, ça pourrait être copywriting. Un hashtag qui va être plus orienté, on va dire, sur ton activité, ta niche. Donc moi, ça pourrait être écriture persuasive ou ça pourrait être LinkedIn Tips, par exemple. Et après, un hashtag de marque, pourquoi pas, si tu as vraiment travaillé sur une marque, tu pourras très bien l'utiliser là pour mettre ancrer davantage ton personal branding, ton image de marque. Typiquement, tu as Mélanie Bigot qui, elle, publie des posts plus orientés sur l'orthographe, et elle a un hashtag qui est Mélanie avec un Y, parce qu'elle en a fait une petite blague au départ, parce que les gens majoritairement se plantaient quand ils écrivaient son prénom. Et aujourd'hui, en faisant ça, bah, les gens peuvent revoir l'intégralité de ses contenus en s'abonnant à ce hashtag-là.
Alors, c'est quelque chose que tu expliques bien, parce que dans le livre, il y a des exemples, etc. Oui, alors, tout à l'heure, on parlait de copywriting. J'ai rigolé parce que j'ai trouvé que dans les petits témoignages que tu demandes, les partages d'expérience, il y a souvent un truc qui est drôle, c'est qu'il y a une intro textuelle, etc. Et puis, il y a au bout d'un moment, il y a « je suis tatatatac » et « je suis spécialiste de ça », etc. Et alors, je sais pas si tu as... Enfin, si c'est que tu leur avais donné une trame au témoignage ou quoi que ce soit, il y a plein de témoignages où c'est vraiment, on a l'impression, on est dans cette espèce de type d'accroche LinkedIn, tu sais, avec une phrase d'accroche et tac, et puis au bout d'un moment, c'est je suis, tac, 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 tac. Mais est-ce que finalement, quand on lit ces témoignages, on se dit que c'est un peu la bonne façon de procéder pour quand on fait des posts sur LinkedIn et sur quand on se présente?
Bah, ça peut être vraiment une bonne manière de faire. Typiquement, tu vois, je l'aurais pas spécifié exactement de suivre une trame en particulier et de dire après je suis, etc. Mais je leur disais, voilà, moi pour avoir votre retour d'expérience, j'aimerais bien, bah, d'une part, que vous vous présentez, que vous expliquiez finalement comment illustrer les propos de ce chapitre-là, partager votre retour d'expérience et donner deux, trois conseils qui puissent être complémentaires ou venir soutenir les propos qu'il y a dans le chapitre. Et justement, c'est en relisant tous les témoignages, et je crois qu'il y en a au moins trois ou quatre qui utilisent vraiment la même structure, où tu vois, je crois, presque 10 lignes plus tard, je suis un tel. Et c'est là que moi aussi, ça m'a fait sourire, parce que j'ai remarqué que c'était vraiment des approches aussi copywriting, et que finalement, c'est une bonne approche qu'on peut utiliser pour se présenter sur une plateforme, même ça pourrait être utilisé pour un résumé LinkedIn, par exemple.
Oui, mais en fait, j'ai rigolé parce que j'en avais marqué certains. Et tu vois, là, je suis en train de naviguer dans les pages et je vois Ignès Sivignon. Et t'as vraiment ça. Je suis Ignès Sivignon, rédactrice web, tac, tac, tac. Et en fait, ça arrive en 1, 2, 3, 4. C'est le cinquième paragraphe, donc il y a déjà 20 lignes de texte. Et il y a ça. Et puis le truc suivant, tac, c'est comme ça. Et puis le truc suivant, c'est tac. J'ai dit, attends. Là, quand même, c'est un peu... C'était drôle. J'ai trouvé ça que c'était vraiment drôle. Mais effectivement, après, je suis allé regarder les pros. Moi, tu sais, je suis un naturel curieux. Je suis allé voir les profils. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est vrai que c'était quand même... T'as des gens qui ont... qui donnent des exemples, donc des gens qui maîtrisent assez bien les codes de la plateforme et qui effectivement reprennent bah, tout simplement ce qui a marché sur leur présentation et sur leur profil, quoi.
Ouais, c'est ça exactement. Et puis c'est marrant que tu aies remarqué ça, parce que c'est moi quelque chose que j'avais remarqué en relisant les témoignages, mais tu vois, je suis passé à autre chose. Et tu es la première personne à me faire vraiment cette remarque-là, moi qui m'avais fait justement sourire en relisant les témoignages. Mais effectivement, ouais, ce sont des structures qu'on peut voir régulièrement, ouais, sur la plateforme.
Alors, là, il y en a plein qui nous écoutent, qui disent, bon, maintenant, ça y est, je suis convaincu. Alors, bien sûr, on va leur dire, on peut acheter le livre, hein, ça, c'est la logique du vendeur, etc. Allez suivre ton compte, ça, c'est la logique. De toute façon, on verra le livre, parce que tu le mets bien en avant avec plein de photos, etc. Mais là, les gens, tu vois, ils sont dans leur voiture, tout de suite, ils sont en train d'aller au boulot, son vendredi matin, tranquillement, ils se disent, bon, eh ben, écoute, j'arrive au bureau, je prends mon compte, enfin, j'arrive au bureau, ou je suis en confinement, ou je sais pas ce que je fais, je sais plus où on en est. Ils disent, là, j'arrive sur mon compte LinkedIn, il faut quand même que j'y mette un petit coup de balai. Par quoi je commence pour, on va dire, le pimper un peu pour en faire un outil un peu plus intéressant?
Ouais, alors déjà, ça va être se poser les bonnes questions. Est-ce que je sais à qui je m'adresse? À partir du moment où tu sais à qui tu t'adresses, donc à quel est ton avatar cible, ça va te permettre déjà d'orienter ta communication et la manière dont tu vas utiliser ton profil. Une fois que ça c'est clair, ça va être d'optimiser le profil pour que ça puisse toucher et résonner auprès de la cible en question. Donc ça va être de refaire la photo si besoin, créer une bonne bannière, revoir le titre et le résumé. Une fois que ça c'est fait, c'est OK. Maintenant, est-ce que j'ai des personnes dans, est-ce que j'ai déjà un réseau? Et est-ce que ce réseau est suffisamment qualitatif? Est-ce qu'il répond à mes objectifs sur LinkedIn? L'objectif, c'est pas d'être en mode je vais supprimer des relations que j'ai depuis 15 années parce qu'ils ne sont pas dans mon cœur de cible. Non, non, l'idée, c'est voilà, tu as construit tes relations sur le long terme et voilà, tu as des relations qu'il faut conserver dans ton réseau. Mais à partir de maintenant, est-ce qu'il y a des personnes avec qui j'ai aucun contact, des personnes qui ne m'intéressent pas? Est-ce que ça vaut le coup qu'ils restent dans mon réseau? Si la réponse est non, bah, à ce moment-là, il est temps de faire un nettoyage pour repartir sur une base propre. Une fois que ça s'est fait, c'est OK, maintenant, est-ce que je veux être sur LinkedIn pour prospecter et trouver mes clients ou est-ce que je vais être sur LinkedIn pour bâtir une réputation et générer des prospects sur le long terme? Si tu as besoin tout de suite de prospecter, ça ne va pas être utile de mettre en place une grosse stratégie de contenu. Tu peux, par exemple, peut-être mettre en place une petite stratégie de contenu, c'est-à-dire publier au moins une fois par semaine, sans pour autant y consacrer énormément de temps. Si après tu te dis, bah ouais, mon activité elle est stable, j'ai besoin moi de devenir une référence sur mon secteur, ou en tout cas de gagner en visibilité et de générer des prospects, bah là tu peux mettre en place une stratégie de contenu avec une fréquence un peu plus soutenue, deux, trois publications par semaine pour justement bah, gagner en visibilité, gagner en crédibilité, mettre en avant ton expertise et bah, donner envie aux gens de te contacter pour tes services. Et bien entendu, une fois que tu as mis en place cette stratégie de contenu, ça va être de, OK, maintenant, il y a des gens qui interagissent, mais voilà, il faut que je sois proactif. Donc, ça va être bah, d'inviter les bonnes personnes dans ton réseau, d'inviter les personnes qui sont intéressées par ce que tu publies, créer du lien et voir si après, de ces liens-là, tu peux avoir des opportunités commerciales et proposer après bah, soit des appels, soit de renvoyer les gens vers tes ressources, soit d'inviter les gens à s'inscrire à ta liste email. Après, tout dépend de ton objectif que tu t'es fixé en amont sur la plateforme.
Oui, il faut vraiment y aller avec une stratégie parce que c'est vrai que sinon on peut y passer beaucoup de temps ou alors on peut ne jamais y aller. Je connais des gens qui n'y vont jamais. Hein, les étudiants à l'université, on les forçait à s'inscrire et puis en fait on se rend compte qu'ils n'y vont pas ou alors c'est quand ils cherchent un stage. Donc ça part un peu dans le vide. Mais comme ils ont eu la bonne idée d'ajouter leur maître de stage et enseignant, en général ils espèrent un relais. Hein, c'est toujours.
Ouais, c'est sûr.
Alors c'est là que tu peux leur monnayer en disant bah, attends tu mets une bonne évaluation et je te transfère ça. Bon, moi je le
Réciprocité.
fais pas parce que non mais enfin c'est même pas une blague en plus hein, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens qui ont des stratégies de ce type-là. Mais c'est vrai que par exemple on parlait de tes carrousels, tu dois y passer 2 3 heures.
Ouais, sans te mentir, ouais, c'est ça. Le dernier carrousel, je l'ai fait vraiment différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Le dernier carrousel que j'ai fait, là où on voit ma tête un peu partout, c'est parce que je voulais vraiment tester un nouveau format et proposer quelque chose de plus léger. Mais habituellement, ouais, les carrousels que je fais font en général entre 20 et 24 slides et j'y passe entre 3 et 4 heures. Quand j'ai 3-4 heures, ça part de bah, trouver le sujet, trouver l'idée, scripter tout mon contenu. Une fois qu'il est scripté, bah, le mettre en page sur Canva. Trouver les bonnes illustrations ou faire les photos si besoin, et après rédiger le post qui va accompagner le carrousel, ce qui demande aussi du temps, et ensuite bah, le publier sur LinkedIn et interagir avec la communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de tester différentes approches. Donc, là, enfin, sur le dernier carrousel en l'occurrence, le post qui accompagne fait 3 mots, et du coup, sur le carrousel en question, il y a des photos que de moi et il y a les conseils que j'apporte, c'est pas une réflexion hyper profonde, mais je voulais tester une nouvelle approche. Mais globalement, ouais, je creuse un sujet.
Oui, parce qu'après, c'est vrai que sur les carrousels, et quand on regarde sur Instagram ce qui se fait notamment dans le domaine freelancing, etc., je pense notamment sur des comptes américains, les Chris Doux et compagnie, là, qui ont des carrousels très complets, qui en balancent je sais pas combien à la semaine. C'est un vrai investissement de temps, hein, pour arriver à le faire. Alors, c'est sûr
C'est
que c'est
ça.
des comptes qui sont extrêmement visibles et que ça, pour lesquels ça marche beaucoup. Mais j'ai envie de dire que il faut un peu devenir spécialiste de LinkedIn pour investir autant de temps là-dedans, quoi.
Bah, j'aurais pas le temps de devenir un spécialiste. Disons que si tu veux faire des carrousels qui fonctionnent, il faut quand même déjà avoir un minimum de sensibilité graphique. Parce que tu peux très vite faire des carrousels qui vont être totalement moches ou qui vont pas être bien structurés et tu vas perdre l'attention bah, des lecteurs. Si tu publies des carrousels avec des gros pavés de texte, les gens vont regarder 2 slides et puis ils vont abandonner. Hormis si c'est un gros e-book de 50 pages, les gens savent que c'est un PDF que tu as partagé, ils vont le télécharger et là ça va être intéressant. Mais globalement, voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Et voilà, investir dans le carrousel, ça peut être payant, mais faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai un intérêt à faire du carrousel? Est-ce que j'ai suffisamment de temps et de ressources et d'énergie à utiliser ce format-là? Est-ce que je suis sensible avec le graphisme? Est-ce que finalement je suis sensible avec l'écriture? Si la réponse est non, bah, peut-être s'orienter plutôt vers la vidéo ou s'orienter vers le texte tout simplement, qui marche tout aussi bien. Après, il faut trouver le format dans lequel on est le plus à l'aise et faire des tests, itérer et puis voir un petit peu comment l'audience réagit.
Oui, alors moi, tu vois, j'ai une idée comme ça que je vais suggérer à mes auditeurs, podcasteurs. Certains de ces ont des comptes Instagram spécifiques pour leur podcast, avec dedans, bah, tu peux pas mettre grand-chose. Une citation, tu peux mettre la photo de l'invité, le numéro, tu vois, de quelques trucs comme ça. Peut-être, je pense qu'on pourrait essayer de recycler du contenu. Par exemple, sur un épisode de podcast, si je faisais 5-6 images différentes pour dire une citation, une petite phrase, un chiffre qu'il a pu donner, tu vois, un conseil, pas impossible qu'on puisse le recycler en une espèce de mini carrousel avec les infos principales et en disant, bah, après, vous vous débrouillez pour aller sur Apple Podcast ou comment t'as fait toi avec un lien en bas qui est écrit en disant, voici, suivez le lien, j'ai un votre coach web podcast pour aller l'écouter. Parce que je me dis que finalement, ça peut être une astuce pour ceux qui voudraient quand même avoir une présence. Et qui ont investi du temps sur toutes ces images-là pour Instagram, ça peut marcher, ça.
Ah bah clairement, l'idée c'est de se dire, ok, j'ai investi beaucoup d'efforts dans la production de contenu, comment après je peux maximiser cet effort-là et on va dire le presser un peu comme un citron pour en tirer toute l'essence. Effectivement, tu as par exemple Thomas Burbidge qui a aussi un podcast et lui, quand il communique sur son podcast, soit il récupère des extraits audio et après il va sur des sites comme je pense c'est Headliner où tu peux avoir justement la bande son qui bouge et avoir justement une image fixe pour avoir un petit visuel pour que les gens puissent écouter. Sinon, tu as la possibilité aussi de pouvoir en faire un carrousel. C'est-à-dire, bah, par exemple, faire un résumé du podcast en retirant les bons conseils, les punchlines qui ont été dites dans le podcast, ou tout simplement faire un texte simple pour expliquer quels étaient vraiment les bénéfices principaux de l'échange et inviter les gens avec un lien à aller écouter l'épisode en entier.
Ouais, bon, si j'ai un petit peu de temps la semaine prochaine, parce que je diffuse la semaine prochaine, je ferai un petit carrousel pour tester pour notre épisode. Je verrai. Mais
Excellent.
en fait, j'ai une semaine qui est un peu remplie, tu vois. Puis quand je me dis, alors attends, il va falloir que je fasse ça. Et puis là, bon, quand même, Christopher, il a, je sais plus combien de milliers de followers.
Ouais, j'ai un peu plus de 28 000 ouais, abonnés.
Ouais, bon, je me dis, il en a 28 000, donc c'est le bon moyen, en fait, de se dire, il va falloir se glisser chez lui d'une manière ou d'une autre, faire ça, tu vois. Et donc je me dis, bon, on va réfléchir à un truc. Mais c'est vrai que ces histoires de recyclage du contenu, moi, c'est un truc sur lequel je suis beaucoup parce que c'est important. Et moi, il y a un truc que j'avais fait, c'est que je filme tous mes podcasts solo, en tout cas, les réunions comme ça, pas forcément, mais et ce que je fais, j'avais expliqué un jour que puisque j'ai la vidéo, je sors un bout de la vidéo que j'ai enregistré dans lequel je parle. Alors forcément, il y a mon décor, etc. Et en fait, je le mets en extrait sur LinkedIn de temps en temps pour voir si ça, ce que ça fait comme retour, etc. Alors bien sûr, il faut arriver à prendre un bout qui, il n'y a pas le contexte avant, le contexte après. Il faut arriver à avoir le bon petit bout. Et puis, il y a une contrainte, il faut le dire quand même, c'est que sur LinkedIn, les vidéos, elles sont pas illimitées en durée. Donc, et puis les gens, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. J'ai l'impression que la durée de visionnage d'une vidéo est pas si longue que ça, en fait.
Ouais, déjà de base, LinkedIn va limiter la vidéo à 10 minutes. Bon, 10 minutes, c'est quand même déjà assez long, mais après, quand c'est sur YouTube ou du podcast, bah, finalement, c'est très court. Après, sur LinkedIn, l'attention des gens est de plus en plus limitée. Et ce que recherchent les gens, ça va être des contenus qui vont se consommer assez rapidement. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais déjà testé le format vidéo l'année dernière et j'avais testé différentes longueurs, différentes tailles. Allant de 1 minute à plus de 8 minutes. Et finalement, ce qui était assez marrant, c'est que globalement, j'avais parfois plus d'interactions sur des longues vidéos que sur des courtes. Tout dépend après de ton audience. Est-ce que ton audience est habituée à ce que tu publies du contenu long sur la plateforme et elle s'attend à ce qu'elle voit un contenu long? Ou est-ce que bah, ton audience est habituée avec du contenu court et si elle voit passer cette vidéo qui est trop longue, bah, finalement, pas passer à autre chose parce qu'elle n'a pas le temps de rester 8 minutes sur ta vidéo? Sachant que les gens qui viennent sur LinkedIn n'ont pas la même intention de départ que les gens qui se rendent sur YouTube. Sur YouTube, tu vas aller tu vas aller dans d'autres conditions, tu sais que tu vas aller pour garder du format long, que quand tu vas sur LinkedIn, tu sais que tu vas aller pour consommer tout de suite du contenu qui est beaucoup plus court. Donc, ce que je recommanderais, ça serait plutôt d'utiliser des bons extraits qui font entre une et deux minutes, mais pas plus.
Ouais, c'est vraiment le truc, hein. C'est vrai, moi je l'ai vu sur des extraits. Après, la vie, c'est un bon moyen. C'est pour ça que je dis aussi que j'enregistre la vidéo du podcast, c'est que justement pour faire ce recyclage, donc j'ai plein de petits bouts de séquences comme ça que je peux repartager. Alors ça peut partir sur Insta, ça peut partir sur LinkedIn, ça peut partir à la limite, ça pourrait presque partir sur une chaîne YouTube spécifique avec que des extraits, un peu comme fait Stan Leloup avec son podcast. Bien sûr, alors ça demande après de faire du découpage, etc. Mais bon, c'est une manière aussi de le faire connaître en essayant de tirer profit finalement de ces outils-là. Parce que le son, sur LinkedIn comme ailleurs, il est complètement oublié, même si je pense que l'arrivée de Clubhouse dans le jeu pourrait modifier un petit peu les choses. Alors, j'ai pas entendu si pour l'instant LinkedIn va faire aussi sa copie de Clubhouse comme a annoncé Facebook, Twitter, ouais. Instagram et tous les autres. Mais ça semblerait possible.
Ça pourrait sembler clairement possible. Si tu regardes l'évolution des fonctionnalités de LinkedIn, c'est vraiment très, très inspiré de Facebook. LinkedIn a proposé les posts comme ce qu'avait fait Facebook avec les publications sur le feed d'actualité. Ensuite, LinkedIn a proposé les vidéos. Ensuite, LinkedIn a proposé les lives. Ensuite, LinkedIn a proposé les stories. Donc, ça ne m'étonnerait pas que LinkedIn, après, propose justement ces systèmes audio pour tirer profit des personnes qui sont demandeurs de ce type de format-là. Donc, je serais vraiment curieux de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, Clubhouse a quand même pris une belle longueur d'avance.
Ouais. Tiens, je suis en train de regarder un outil qui est assez intéressant, qu'on ne voit pas trop souvent. C'est le graphique radar de sa voix sur LinkedIn. Dans ton livre, c'est un truc intéressant parce que justement, tu disais, il faut arriver à trouver aussi son moyen d'expression et sa personnalité. Et là, c'est un outil qui est intéressant pour ça en fait.
Ouais, exactement. Clairement, moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que majoritairement, les gens dans mes accompagnements ou les gens qui me contactent sur LinkedIn me disent. Bah moi, j'aimerais bien communiquer sur LinkedIn, mais je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas si je dois être moi-même. C'est là où ça devient un petit peu problématique pour certains. C'est parce qu'ils ont peur qu'en allant sur LinkedIn, ils doivent avoir une posture qui est ultra pro. Et pour eux, être ultra pro, c'est-à-dire avoir un ton qui est corporel, qui est lisse, qui est pompeux, alors qu'on peut très bien être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est pour ça que je me suis inspiré de ce qu'avait fait Alexandra Martel, une copywriter, et qu'elle-même a repris d'une étude de Nielsen, où justement l'idée c'est de se dire aujourd'hui quel est le ton de ma voix. Donc est-ce que je suis plutôt sur un ton qui est un peu plus humoristique, donc il y a quatre axes, donc sur un ton qui est plus humoristique, est-ce que je suis sur un ton qui est beaucoup plus décontracté, est-ce que je suis sur un ton qui va être, on va dire, beaucoup plus sérieux, etc. Donc l'idée, c'est de se dire voilà, comment moi je me calibre sur ces axes-là pour voir quel est le ton de ma voix aujourd'hui. Et après, refaire la même chose et se dire maintenant, quel ton moi j'aimerais bien avoir. Et du coup, on refait le même exercice et là, on se rend compte que finalement, peut-être que on ne publie pas des contenus sur le ton qu'on aimerait bien adopter. Et l'idée, c'est de se dire, OK, à partir de demain, je vais avoir un ton qui va être légèrement plus humoristique, qui va être légèrement plus académique, etc. Donc, tout dépend, encore une fois, de notre propre langage. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut se dire, est-ce que mon langage et le ton que je vais employer sur LinkedIn ou même sur d'autres plateformes va être en adéquation avec le langage de mon audience cible? Si demain, majoritairement, tu t'adresses à des banquiers et que toi, tu es un peu foufou et tu es à fond dans l'humour, peut-être que ça va pas être en adéquation avec ce public-là. Peut-être qu'il faudra que tu utilises un ton qui est un petit peu moins humoristique. Donc voilà, encore une fois, c'est trouver le bon équilibre entre ton ton et le ton de ton audience.
Ouais, je suis en train de lire Seth Godin, le dernier livre de Seth Godin, et il a une expression, il dit il faut se connecter avec yourself, mais il le met en deux mots en fait, son propre soi, son soi profond, j'ai envie de dire, hein, qu'on va exprimer, qu'on cherche tous, et c'est vrai que LinkedIn, soyons honnêtes, c'est vraiment une plateforme de construction de marque personnelle qui est extrêmement puissante, parce que elle réunit finalement tous les éléments, le passé, sur quoi on travaille, on peut même partager ses rêves, sur quoi on veut construire, parce que on le voit les entrepreneurs hein, qui le disent et qui le racontent assez bien, qui racontent à la fois des anecdotes de maintenant et puis leur vers quoi ils vont quoi.
Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Non, moi, t'as très bien résumé les choses et j'ai pas plus à ajouter là-dessus. Non, non, je suis d'accord.
Voilà. Bah écoute, tu vois, moi j'ai, je me suis dit bon, il faut que j'investisse un peu de temps sur LinkedIn. Et il y en a des gens qui l'ont remarqué parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit ah bah tiens, ça, t'es plus actif sur LinkedIn, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mettre un peu plus de posts, j'ai mis 2-3 commentaires, j'avais commenté un, etc. Et tout d'un coup, bah comme le flux remonte, la moindre action qu'on commence à faire, les commentaires, les choses comme ça, tout d'un coup, je deviens juste un peu plus visible. Assez rapidement. Alors, ça m'a pas attiré pour l'instant que des amis. J'ai plein de gens qui veulent me vendre plein de trucs, bien sûr.
Ouais. Hein,
donc ça, je peux pas les, je peux pas m'en débarrasser. Hein. J'ai mis le bouton suivez-moi, j'ai mis tout ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, il y a un truc sur lequel tu insistes et c'est là où c'est intéressant, c'est l'idée de se faire une routine, se dire bah voilà, si on veut mettre du temps dedans, on va pas peut-être pas y mettre des heures parce que tout le monde n'a pas des heures, mais en tout cas, il faut avoir une petite routine que chacun peut adapter, mais de se dire, au moins, je prends l'habitude d'y aller régulièrement.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé un petit rituel et j'ai ancré mon habitude avec une autre habitude qui est, elle, bien ancrée. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs tests, déjà en amont, pour savoir à quel moment publier, et j'ai remarqué que mon audience était quand même beaucoup plus réactive entre midi et deux. Ensuite, je me suis dit, OK, mon audience est plus réactive entre midi et deux. Maintenant, je vais tester à midi, midi 30, 13h, et j'ai remarqué que mon audience était plus réactive à midi et demi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, OK, c'est parfait. Maintenant, je vais manger entre midi et midi et demi, et dès que j'ai terminé de manger, le premier réflexe, ça serait avant d'ouvrir une application, mes emails, etc., ça va être de mettre en place tout de suite ma routine LinkedIn. Donc, ce que je fais, c'est que bah, si c'est le jour où je dois publier mon contenu, bah, je publie mon contenu. Donc ça me prend voilà une petite minute, donc grosso modo ma routine prend à peu près une heure. Ensuite je vais vraiment gérer bah, toutes mes demandes de contact, ça va me prendre à peu près 9-10 minutes. Ensuite je vais répondre à tous mes messages privés, donc ça va me prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite je vais gérer tous mes commentaires, donc les commentaires que j'ai publiés sur mon contenu, que les commentaires que j'ai laissés sur les publications des autres, ça va me prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, je vais publier des commentaires constructifs sur les publications des autres. Ça va me prendre environ 10 minutes. Donc, grosso modo, ça me prend une heure. Bien entendu, parfois moins, parfois plus. Mais j'essaye de me cantonner à une heure pour pas que ça devienne trop chronophage et que j'y passe toute ma journée sur LinkedIn. Parce qu'après, j'ai d'autres priorités, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce qu'après, dans la journée, à un moment plus off, je pourrais retourner dessus pour, on va dire, répondre à d'autres commentaires si jamais une publication a plus buzzé qu'une autre. Auquel cas j'y vais. Si j'ai pas eu le temps, bah c'est pas grave, je reprendrai ma routine le lendemain là où j'ai laissé.
Et je rigole parce que j'ai vu qu'on a les mêmes références. Une certaine Marie Kondo.
Ouais.
Parce que moi j'avais fait un truc, j'ai dit ouais mais vous pouvez utiliser la méthode KonMari pour créer du contenu, pour savoir si vous allez arrêter, reprendre ce podcast, arrêter votre blog, votre compte Instagram, etc. Et toi en fait tu l'appliques.
Ouais c'est ça exactement. C'est vrai que pour Marie Kondo, pour ceux qui ne sauraient pas trop de qui il s'agit, c'est une consultante japonaise qui a une méthode de rangement vraiment unique qui appelle la KonMari. Et son objectif c'était vraiment bah, en gros de vivre voilà, dans un intérieur rangé et sain quoi. Et sa méthode, elle se décompose en trois parties. La première partie qui est la décision. Donc en gros, vous allez décider bah, de réagencer votre intérieur et de prendre le temps de, bah, de faire du rangement. La deuxième étape, ça va être de faire le tri bah, de quels vêtements ou de quels objets on doit se débarrasser qui sont inutiles pour avoir un espace qui est plus sain. Et après le rangement, bah, une fois que tout est trié, maintenant, voilà, je fais en sorte de bien ranger les choses, de les rendre accessibles. Bah, étrangement, c'est pareil sur LinkedIn et sa méthode, elle s'adapte vraiment parfaitement à la plateforme, surtout pour gérer les contacts. Donc, ce que vous allez vous dire, sa première étape, quelle est la décision ? Bah, vous allez décider sur vos propres critères qui peut faire partie de votre réseau. Ensuite, le tri, bah, vous allez faire le tri parmi toutes les demandes que vous allez recevoir. Et enfin, le rangement, c'est-à-dire que bah, vous allez suivre les contenus des personnes bah, qui vous intéressent le plus pour avoir un fil d'actualité qui va être globalement plus propre.
Et voilà, et comme ça, maintenant, on sait tout, on sait exactement comment gérer tout ça. Comme tu te dis, l'aventure sur LinkedIn ne fait que commencer, hein. Bon, après, si on veut vraiment savoir plus, et je le dis, hein, parce que c'est vrai que le bouquin, il y a plein de références communes en plus, parce que tu parles de Steven Pressfield et compagnie, donc là-dessus, je me suis retrouvé dans beaucoup d'idées, en fait, dans une démarche. Et c'est pas un livre où il y a des hacks, les 10 hacks pour essayer d'avoir son compte qui sera un peu vu ou quoi que ce soit. Donc ça va plus loin que ça. Et j'ai envie de dire que c'est une stratégie long terme. Hein, ce qu'on disait au début, c'est qu'on est plutôt sur des méthodes de stratégie long terme plutôt que de rechercher le petit hack du truc qui pourrait marcher maintenant, quoi.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, je me suis donné une petite contrainte et lancé un petit défi qui était, je veux que le livre ne soit pas périssable et qu'il reste globalement le plus temporel, enfin qu'il soit assez temporel. Et là, c'était le grand défi de se dire, ok, mais les gens, ils veulent absolument avoir des raccourcis, utiliser des hacks pour contourner l'algorithme. C'est des choses que j'aurais pu écrire dans le livre, mais si demain LinkedIn fait une grosse mise à jour algorithmique, bah, tous les conseils que j'ai mis dans le livre ne vaudront plus rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, moi, je vais rédiger un bouquin selon 10 étapes, avec des concepts et des idées qui ne seront pas périssables. Et pour tout ce qui va être paramètres du compte, changement algorithmique, etc., hack, ça sera directement sur mon email. Et du coup, au début du livre, j'invite les gens à aller télécharger le premier cours sur le paramétrage du compte et de s'abonner à ma liste email, parce que c'est là où justement je vais parler de tous les hacks, les changements algorithmiques. Donc ça permet de contourner le côté un peu périssable des bouquins qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux.
Eh ben voilà, eh ben on sait tout. Merci beaucoup en tout cas Christopher pour toutes ces infos, pour cette plongée dans LinkedIn, parce que je sais que ça questionne tellement de gens, puis ça fait longtemps que j'ai dit, il faut vraiment que j'en parle. Alors, on va rappeler où est-ce qu'on peut te suivre.
Alors, si les gens n'ont pas compris, c'est sur LinkedIn. Donc, ils peuvent me retrouver tout simplement en tapant Christopher Piton sur LinkedIn. Sinon, ils peuvent me retrouver sur mon site internet christopherpiton.com et il y aura toutes les infos.
Voilà, et donc dans toutes les bonnes librairies, hein, parce que le livre est édité chez Erol, donc ça, il n'est pas que sur Amazon en impression à la demande.
Ça, tout à fait, ouais. Donc, on peut retrouver mon livre À la conquête de LinkedIn dans toutes les librairies de France et sur toutes les plateformes en ligne de vente de bouquins.
Voilà, moi j'ai pris en Kobo, donc j'ai trouvé sur Kobo, hein,
Ouais, la Fnac.
ce qui est pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense qu'il y a des gens qui auront des questions, qui auront creusé, qui auront voir les carrousels, qui se demandent bien à quoi ça ressemble, etc. Donc, ils iront voir. Moi, je sais à peu près mes devoirs. Tu vois, je vais commencer à y réfléchir. Là, c'est en train de me titiller un peu cette histoire-là. Maintenant que je sais sous quel format je vais le faire, et tu vois que j'ai eu des idées en plus sur par rapport au podcast, je me dis, tiens, peut-être faire un petit effort quand même pour en faire. Parce que c'est pas tout de produire du podcast, pour produire des vidéos, produire des blogs, etc. À un moment donné, il faut en faire la promotion. Et c'est vrai
C'est
que
ça.
LinkedIn fait partie de l'arsenal potentiel de promotion, surtout quand on s'adresse à une cible qui est dessus. Et c'est dommage de ne pas en profiter. Et puis au passage, vous y regardez, parce que on n'a pas parlé, mais des bannières, et tu en parles dans le livre, d'avoir une bannière, son profil, etc., d'avoir une bannière avec le. Qui est pas forcément facile à caler, parce qu'en plus ils ont changé les dimensions il y a pas longtemps. Moi, ma bannière était toute décalée, donc j'ai tout, je la recalée il y a pas longtemps. Mais voilà, ça fait partie. Il y a quand même des petits trucs, des petites astuces à aller récupérer. Et donc je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, pour avoir toutes ces explications. Et je suis sûr qu'on va arriver un petit à petit à retrouver un petit peu des gens qui vont se dire, tiens, je pourrais quand même aller creuser un petit peu plus, parce que ça fait partie quand même des territoires sur lesquels il y a probablement plus de choses à faire. Je t'ai pas posé la question, mais je pourrais dire entre Instagram, LinkedIn, Facebook, si t'as, enfin, toi, bon, on sait ce que tu as choisi, mais quelqu'un qui se pose la question, juste un argument en faveur de LinkedIn pour terminer.
Si vous voulez vraiment vous lancer sur LinkedIn, c'est là où potentiellement vous avez plus de décideurs et de leaders d'opinion B2B. Donc, si vous êtes si vous proposez des offres de services B2B, c'est là où il faut se rendre.
Voilà, et eh ben c'est une très bonne conclusion. Je te remercie beaucoup pour cette conclusion. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Christopher.
Merci à toi Bertrand, et puis merci pour l'invitation et très belle journée. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.